Le Finistère dans la Grande Guerre, c'est le titre de l'ouvrage édité par la Société archéologique du Finistère sous la direction de Yves Coitivy et Tanguy Daniel. Bonjour Yves Coitivy.
Oui, bonjour.
Alors, quel est l'objectif de cet ouvrage? C'est nous rappeler que la Grande Guerre n'a pas marqué uniquement les paysages à l'Est, elle a aussi marqué durablement le quotidien des Finistériens?
C'est tout à fait ça. La guerre de 14-18 est vraiment associée à la guerre terrestre, aux tranchées, à l'Est, à la ligne bleue des Vosges, etc. Et en fait, ce qu'on a voulu rappeler, c'est que la guerre a affecté, bien sûr, les soldats bretons, finistériens qui partaient au front, mais elle a aussi affecté les marins, parce que c'est aussi une guerre qui se passe sur et sous la mer. Et puis, elle a affecté directement les populations civiles, soit à travers les gens qui allaient se battre ou qui étaient réquisitionnés, soit à travers les blessés qui venaient au repos et pour être soignés ou en convalescence en Bretagne, etc. Donc on a un échange permanent entre d'une part le front et d'autre part l'arrière, et c'est trop facile d'imaginer qu'il y a le front et le reste de la France. En réalité, les passerelles sont très nombreuses entre les deux mondes.
Alors il y a plein de sujets traités dans ce livre, comme vous l'avez dit. Alors on parle de prostitution, on a aussi le journal d'un poilu brestois au front, la guerre sous-marine, les visites du président américain Wilson à Brest. Alors le Finistère, même éloigné des tranchées, vit le conflit comme n'importe quel autre territoire. Moi la question que j'avais envie de vous poser est comment se perpétue la vie quotidienne?
Alors, la vie quotidienne continue, l'arrière tient, c'est la grande expression de l'époque, hein, l'arrière tient. La vie quotidienne continue, mais déjà sans les jeunes hommes. Bon, pas besoin d'imaginer que tous les jeunes hommes sont partis au front, ou en tout cas vers les armées, au front, ou en seconde ou en troisième ligne. Plutôt au front pour les Finistériens qui sont majoritairement des ruraux et donc qui vont vers les régiments d'infanterie et les régiments de première ligne. Avec la guerre, l'âge des conscrits, enfin des soldats, augmente. Et donc, il y a les jeunes hommes, puis les hommes d'un certain âge, puis cet instituteur qui est encore un peu plus âgé, qui est affecté à des unités qui sont en seconde ligne, qu'on appelle les pépères, les territoriaux, et qui font un travail nécessaire au front, mais qui ne sont pas en contact direct, sauf accident.
Rien à voir avec les embusqués?
Ah non, rien à voir avec des embusqués. Non. L'embusqué, c'est celui qui échappe à la guerre de toutes sortes de façons. On pourra en reparler après. Mais voilà, donc il y a l'absence des hommes. Il y a forcément, c'est bien connu, mais l'investissement des femmes, puisque là où les hommes ne sont partis, il faut bien que le travail soit fait. Il n'y a pas que les femmes, il y a les prisonniers aussi qui sont mis au boulot. Et puis, des conditions de vie qui changent, parce qu'il faut bien voir que les Allemands occupent à partir de d'août-septembre 14 le nord industriel de la France. La grande zone industrielle du fer, du charbon, etc., c'est le nord et l'est. Or, c'est là où sont les Allemands. Et donc, pénurie d'un certain nombre de choses. Et non seulement pénurie, mais pénurie aggravée parce que les armées aspirent tout ce qui est essentiel à la vie quotidienne, la nourriture, le métal, le tissu. Et donc, pour les populations, en plus de la dureté du moment, de la dureté de l'épreuve et de l'investissement des populations, il faut vivre avec le manque, avec l'absence, des gens, des êtres chers, et l'absence souvent du nécessaire, ou en tout cas, c'est clair, du superflu. Donc des conditions de vie dégradées. Et puis, il faut bien voir que la guerre se fait sur mer et qu'à partir de ce moment-là, le Finistère devient frontière maritime et donc zone de guerre. Et c'est un aspect qu'on a tendance à oublier, mais il n'y a pas que les poilus dans les tranchées, il y a aussi les marins. Donc c'est un autre aspect du problème.
Alors une autre question, peut-être plutôt la politique, pendant 4-5 ans, pendant la Grande Guerre, qu'est-ce qui se passe au niveau électoral? Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que les gens sont appelés à voter durant cette période?
Alors, pendant la guerre, la vie démocratique a tendance à s'effacer parce qu'on est dans un système où rien ne doit venir perturber l'exercice du pouvoir de façon à aller vers la victoire finale. Donc la vie politique continue, mais sous l'égide de l'union sacrée, et qui fait que tous ceux qui sont soupçonnés d'être antimilitaristes sont surveillés, certains sont arrêtés, mais qu'en réalité, et là il y a un article de Jean-Yves Guingamp qui le montre bien, les anarchistes dont le pouvoir se méfiait terriblement en 1914 se rallient assez rapidement à la doctrine commune de l'Union sacrée. On ne peut pas dire qu'ils soient partisans de la guerre, mais en tout cas les grèves envisagées à une époque au cas où la guerre éclaterait, la grève des travailleurs qui empêcherait la guerre, par exemple, est une idée abandonnée dès les premières heures de la guerre. Donc on est dans une situation, un entre-deux, où la France continue à être un pays démocratique, avec un fonctionnement démocratique normal, mais en même temps, le poids considérable de l'État et des armées et du ministère de la guerre sur la vie quotidienne et la vie politique du pays.
Pendant 5 ans, pas d'élection, du coup.
Pendant 5 ans, j'imagine que les élections locales, là vous me posez une colle, j'imagine que les élections locales, si la...
Ah non, loin de là, c'est pas le genre de la maison.
La vie démocratique a dû continuer à fonctionner, mais sous tutelle.
Très bien. Et au niveau de l'État, les administrations, pareil, elles fonctionnent normalement?
Ah oui, alors,
tout continue, la police, la gendarmerie,
tout fonctionne bien. Oui, alors du côté des administrations, là, la réponse sera beaucoup plus claire. Les administrations fonctionnent parfaitement. Alors certains sont partis au front. Alors dans les embusqués, vous avez aussi ceux qui justement sont restés pour une raison ou une autre à l'arrière, mais ils sont assez rares. Et puis il faut imaginer l'enthousiasme qu'il y a des populations, des hommes pour aller combattre. C'est un autre aspect du problème. Le nombre de mineurs qui ont triché sur la rage pour pouvoir aller au front. Mais non, les administrations continuent à fonctionner et elles fonctionnent bien. C'est impératif d'ailleurs pour que la guerre puisse se faire normalement et que les hommes puissent combattre sans arrière-pensée. Il faut que derrière, les administrations fonctionnent. Donc, tout fonctionne. La justice, la police, la surveillance du territoire, les arsenaux, tout fonctionne parfaitement, l'administration locale, mais dans les conditions dégradées, là encore. C'est-à-dire que là où avant il y avait un cantonnier, deux cantonniers, désormais il n'y a plus que le plus âgé, parce que le plus jeune est parti. Là où avant il y avait tant ou tant d'employés des postes, ils sont désormais déployés sur les postes aux armées, etc. Donc la vie se transforme, mais tout continue normalement.
Les femmes ont réussi peut-être à ce moment-là aussi à prendre plus de place dans les administrations, par exemple ?
Alors, les femmes occupent plus de place globalement dans tous les domaines. Les usines de munitions sont garnies de femmes. Dans les champs, les femmes vont pousser la charrue, vont faire une partie des travaux, des champs, etc. Donc, à tous les niveaux de la société, les femmes occupent une place plus importante qu'à l'époque précédente. Cela dit, il ne faut pas se laisser intoxiquer dans la mesure où, à peine la guerre terminée, les hommes reviennent et tout ne redevient pas comme avant, oui. Mais globalement quand même, la situation se dégrade à nouveau pour les femmes qui se retrouvent à nouveau sous tutelle. On aurait pu penser que l'espace de liberté relative, on va dire ça comme ça, de la guerre allait perdurer. Non. Dès l'hiver 1918, les choses redeviennent comme avant. Donc oui, des femmes plus investies dans la vie quotidienne et dans la vie en général, mais qui retrouvent leur statut antérieur, le conflit terminé.
Alors pour revenir au Finistère plus spécifiquement, quelles étaient justement les spécificités du territoire ici, surtout militairement ?
Alors militairement, donc on est dans une zone de l'arrière. Donc le Finistère n'est pas impacté directement par les opérations terrestres. En revanche, il abrite des régiments comme le 118e à Quimper ou le 19e à Brest, sans compter des régiments d'infanterie coloniale.
Le deuxième, c'est ça.
Le deuxième hérissé, ou bien encore des régiments qui ont été de territoriaux, qui ont été doublés. Le 19e donne naissance au 119e, qui est le régiment complémentaire du Finistère. Après, il y a l'aspect maritime. Brest est un port de guerre et la guerre se passe aussi sur mer. Et même, je pense à l'article de Jean-Yves Nerzic, c'est même une guerre qui va jusque dans l'espionnage, dans le fait d'aller relever les câbles des Allemands pour les confisquer au profit des Français, etc. Donc il y a un aspect maritime. Et puis, il y a deux spécificités bretonnes et finistériennes. La première, déjà évoquée en quelques mots, le Finistère est un département rural. Et donc, les soldats sont d'emblée envoyés vers les régiments d'infanterie. Parce qu'on envoie vers les régiments d'artillerie ou vers les régiments spécialisés des gens qui sont spécialisés. Or, il se trouve que ces gens spécialisés, on ne les a pas. Donc, les paysans vont directement vers l'infanterie. Alors, la reine des batailles, mais celle aussi qui paye le plus lourd tribut à la guerre. Et puis, il y a la marine. Avec ce système de l'inscription maritime. Un article de Jean-Christophe Fichou, les marins sont inscrits maritimes et donc ils doivent rejoindre des unités, des bateaux en particulier, en cas de conflit. Dès septembre, août septembre 14, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de marins pour pas assez de bateaux.
Et on les envoie sur le front.
Et on les envoie sur le front. Et on les envoie sur le front dans des unités qui vont faire un travail d'infanterie. Hein, c'est l'amiral Renard et puis ces fusiliers marins dans des conditions absolument terribles parce que ce sont des hommes qui n'ont pas été formés pour la guerre terrestre. C'est des gens qui ont été formés pour naviguer sur les bateaux, les armées, etc. Mais pas pour combattre en première ligne à un moment où la guerre est très vive dans la mesure où on est encore dans la guerre de mouvement, c'est-à-dire que les fusiliers marins, ils arrivent au moment où la Belgique est envahie, où il faut se battre contre des Allemands qui se font de plus en plus rapides et de plus en plus dangereux, et sans préparation. Donc leur héroïsme est encore plus admirable dans la mesure où on les a quand même envoyés au casse-pipe dans des conditions assez terribles.
Alors moi je voulais revenir sur un aspect de la guerre maritime avec l'importance des câbles télégraphiques. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer dans quel sens c'est important? Parce que c'est un peu une révolution à cette époque-là. Les moyens de communication ont été par exemple un prétexte pour les États-Unis à rentrer en guerre.
Oui, alors on a, pour communiquer, on a à l'époque installé au fond des océans des câbles très importants. Si vous allez par exemple sur la plage de Déolène à côté de Brest, vous verrez ces câbles anciens, ils sont encore là, ils sont coupés désormais ou enfouis, ou ils partent d'ailleurs, mais on voit l'ancien câble, on voit la maison de l'ingénieur, des ouvriers, etc. C'est assez touchant. Et donc ces câbles unissaient le continent avec l'Amérique, avec l'Angleterre, avec l'Afrique. Et ça permettait de faire passer à la vitesse du télégraphe, une vitesse très rapide, des informations. Et en temps de paix, ces câbles étaient très utiles pour communiquer d'un état à l'autre, faire passer des informations rapidement. En temps de guerre, on a un double aspect. C'est-à-dire que, d'une part, empêcher l'adversaire de se servir de ces câbles. Et donc les Français vont aller chercher les câbles allemands pour les remonter, pour empêcher les Allemands de s'en servir. Et en plus, ça permet de les détourner au profit des Français.
Donc, et les pirater.
Double intérêt, les pirater et s'en servir contre les Allemands, ce qui est... À la limite, c'est pas forcément, ça peut ne pas être forcément très important d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue moral, c'est essentiel de savoir qu'on a détourné le matériel de l'adversaire à son propre profit. Et ce relevage de câbles est une opération très très compliquée, parce que les câbles sont donc enfouis dans la souille des fonds des océans, à plusieurs centaines ou milliers de mètres de profondeur. Donc il faut aller les récupérer, les relever, les remonter sur des bateaux, le tout dans un espace qu'il ne faut pas oublier bouge, la mer, ça remue, et spécialement l'Atlantique, conditions absolument terribles, et donc remonter les câbles et les rabouter à d'autres câbles, ce qui est un travail extraordinaire et que les marins font avec peut-être pas une aisance extraordinaire, mais en tout cas avec des compétences qui laissent muet d'admiration.
Ouais, c'était bien avant la naissance d'Internet, tout ça, ces piratages de câbles.
Oui, oui. Mais bon, on peut imaginer que les méthodes, les outils ont évolué. Je pense qu'en cas de conflit, on ne le souhaite pas, mais en cas de conflit, les méthodes, elles, resteraient les mêmes quand même.
Alors on revient au Finistère, notamment sur l'effort de guerre dans le Finistère. Est-ce que tous les territoires du 29 ont été impactés sans aucune distinction?
Oui, tous les territoires ont été impactés, alors à des degrés divers et pour des raisons diverses, mais les réquisitions, par exemple, de nourriture affectaient les campagnes, les réquisitions d'hommes ou l'armement des navires affectaient les villes, donc tous les territoires et tous les groupes de population sont directement confrontés à la guerre. Dans les unités, vous allez avoir, c'est un grand classique de la guerre au 19e, au début du 20e siècle, la troupe qui est composée de paysans, d'ouvriers, de roturiers, et son corps officier qui est composé des aristocrates. Quand on regarde quand on lit les témoignages, on voit passer des noms qui sont bien connus, Kergariouf, Infantanio, etc., qui sont les officiers qui tombent à la tête de leurs soldats, au même titre que leurs soldats qui s'appellent Le Gall, Le Goff ou Ropart, se tombent eux aussi, mais dans leur... Donc, tous les niveaux de la société sont concernés, et l'ensemble du territoire est vraiment, toute la population est impactée, quoi. C'est extraordinaire. Et, à la limite, même les enfants, alors ils perçoivent déjà l'absence du père, la violence de l'époque, ils perçoivent la souffrance des familles, mais c'est tout à fait touchant dans l'article sur l'hôpital de Jean-Yves Le Goff, l'hôpital de Desnevin. On installe dans le collège de Desnevin un hôpital militaire, où vont défiler les grands blessés, les brûlés, les gazés, des Français, mais aussi des tirailleurs, c'est des galets. Alors, à Lesnevin, entre 14 et 18, les tirailleurs sénégalais étaient quand même assez inhabituels. Bon. Et il faut imaginer que l'hôpital fonctionne alors que les enfants, qui sont des petits gamins de 6, 8, 10 ans, continuent à aller à l'école. Donc tout a été fait pour séparer, dans des conditions dégradées aussi, parce qu'on a réquisitionné les salles de classe pour y mettre les blessés, et donc les enfants se retrouvent dans des salles qui ne sont pas forcément les plus agréables, ils sont très nombreux, et avec moins de chauffage, assez pénibles. Donc les enfants sont impactés. Mais tout a été fait pour séparer les blessés des enfants, sauf qu'on n'échappe pas au contact. Et donc il se crée des liens, comme ça, entre blessés et enfants. Et donc un enfant de Lesdevin, dont on pourrait imaginer qu'il n'a rien à voir avec la guerre, en souffre au quotidien et la voit sous la forme de ces blessés auxquels il est confronté. Donc ce sont des situations absolument étonnantes, absolument extraordinaires, dans le sens où elles sortent de l'ordinaire, et c'est valable à d'autres niveaux. Par exemple, il y a un article de Jean-François Ollier sur les hôpitaux militaires qui montre bien que les blessés allemands sont soignés dans des hôpitaux brestois par des médecins brestois, et quand la Croix-Rouge vient inspecter ces hôpitaux, elle ne trouve rien à redire. On aurait pu imaginer qu'on allait se venger du Boche, de l'ennemi, etc. On ne peut pas dire que les gens qui s'en occupent les aiment, mais ils font le travail le mieux possible. Et donc on a comme ça des effets de la guerre à des degrés divers, à des niveaux divers, et des Allemands à Brest, et des tirailleurs sénégalais à Lesnevin, et des réfugiés belges à Quimperlé, etc. etc. C'est un monde qui change, et ça rappelle aussi que c'est une guerre mondiale. Et là, en effet, vous avez des Américains à Brest, des Russes à Brest, des Chinois, parce qu'on a fait venir des travailleurs chinois pour aider les Américains dans leur effort de guerre en 1917-1918. Les Américains font la guerre, passent à Ponta des Aines, mais derrière le camp de Ponta des Aines, à côté du camp de Ponta des Aines, il y a les Chinois, et les Chinois, eux, font le travail d'intendance au profit des Américains et des Français. Donc là, on a une guerre mondiale, et Brest voit passer des Russes, des Chinois, des Portugais, des Américains, des Anglais.
Et le président Wilson.
Et le président Wilson, plusieurs fois. Pourquoi Brest, d'ailleurs? Manifestement, il aime bien la ville de Brest. Il a répondu à l'appel du maire de Brest, et puis il y est venu. Mais c'est pour montrer à quel point la guerre est mondiale, y compris en Finistère, y compris à Lesnevin, à Quimper, ici, au Fou, partout.
Alors, une réalité aussi de ce conflit qui s'est marquée démographiquement, avec des pertes considérables. Jusqu'à quand on considère que la démographie finistérienne a été marquée par le conflit ?
Alors, la démographie finistérienne est brutalement marquée par le conflit pendant la guerre, du fait des décès. C'est évident. Et sans doute du décès prématuré de gens qui, si les conditions de vie avaient été meilleures, auraient vécu plus longtemps. Ensuite, donc, il y a un beau creux là, dans ce qui était à une époque les pyramides des âges. En 1918, on assiste à ce qu'on appelle un rattrapage de guerre, c'est-à-dire que les hommes reviennent, et puis et là, on rattrape 4 ans d'absence, et les bébés naissent 9 mois plus tard. Mais ce creux, ce vide des 4 ans, cette saignée des 4 ans de guerre, se reproduit de 20 ans en 20 ans. C'est-à-dire que la génération est morte en 1914, ceux qui auraient dû avoir 20 ans en 14 n'ont pas d'enfants qui eux-mêmes auraient dû avoir 20 ans en 1934, qui eux-mêmes auraient dû avoir 20 ans en 1954. Donc, si après la Seconde Guerre mondiale, les choses se sont remises un petit peu plus vite et un peu différemment, il est clair que l'impact de la guerre sur la démographie est direct pendant la guerre, mais aussi dans les 20-30 années qui suivent, on a à nouveau des creux démographiques, en plus dans une ambiance qui n'est pas favorable à la démographie, enfin au fait d'avoir des enfants, parce que au sortir de la guerre, les populations sont traumatisées. Certes, on rattrape la guerre, on rattrape l'absence du mari et les bébés reviennent, mais on en fait un, mais on n'en fait pas forcément deux ou trois ou quatre ou cinq. Il y a une sorte de mythe des familles avec des rafalées d'enfants. En réalité, quand on regarde la démographie française, et c'est valable en Finistère comme ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, on constate que le traumatisme a été très violent, que les familles hésitent à avoir des enfants, parce qu'elles se disent finalement avoir des enfants, si c'est pour qu'ils retournent à la guerre dans 20 ans, est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est un cadeau qu'on leur fait? Non. Et puis, le contexte de l'entre-deux-guerres est un contexte marqué par des crises, par la violence de la société, la montée des fascismes, du fascisme, du communisme, du nazisme. Ces grands systèmes dictatoriaux sont très, très inquiétants pour les populations. Et quand vous vivez dans un monde comme ça, vous n'avez pas forcément envie d'avoir d'enfants. Et on sait aussi maintenant que cette population d'après 1918 a développé une violence, c'est-à-dire que le fascisme, le nazisme, etc., trahissent aussi toute la violence des tranchées qui ressort dans la population civile. Et si les échanges sont si violents d'un point de vue politique dans l'entre-deux-guerres, c'est parce que la population a été brutalisée par la guerre et que cette brutalisation a un impact après la guerre. Donc c'est absolument terrible. On pourrait penser que le 11 novembre 1918, la paix revient. Oui, la paix revient, c'est l'armistice, mais toute la dureté de la guerre va avoir un impact pendant plusieurs dizaines d'années après la cessation du conflit. Et on sait aussi que si la guerre de 1870 explique la défaite et la perte de l'Alsace et de la Moselle en 70 explique la guerre de 14, tout le monde sait aussi que la guerre de 14 explique la guerre de 39-45. Donc on est vraiment dans des sociétés, dans des contextes très très dégradés pour les populations, et bien au-delà de la guerre et bien au-delà des zones de front.
Comment cette brutalité, justement, là, comme vous la décrivez, elle est transcrite dans les témoignages qui nous sont restés?
Alors, les poilus racontent la violence. Dans le témoignage que cite Tanguy Daniel, par exemple, il raconte sous une forme assez drôle, mais il parle quand même des blessés, il parle quand même de... Donc ça, c'est le côté la guerre racontée à mes enfants pour leur dire ce que c'est, mais sans les traumatiser. Après, non, mais il faut imaginer ce que c'est quand même. Après, ce sont des populations qui sont profondément marquées par la mort de leurs amis, de leurs frères, de leurs pères, etc. Et cette société brutale, et spécialement les hommes, ont tendance à penser que désormais on ne peut régler les problèmes que par la violence, que par le conflit, que les armes à la main. Et ça vous explique que par exemple les mouvements extrémistes français de 1934, ça vous explique toute la violence de la société allemande. Alors, en plus c'est une société qui a perdu la guerre, donc c'est encore pire. Dès la fin de la guerre, l'Allemagne plonge en révolution, en guerre civile, les corps francs composés de soldats démobilisés terrorisent les campagnes, on voit ressortir des espèces de sociétés secrètes ou discrètes qui s'en prennent violemment à leurs ennemis, et c'est valable en France, c'est valable en Italie. Enfin, on a vraiment un contexte très, très dur qui trahit toute la violence et l'héritage de violence de la guerre.
Et pourtant, on a l'impression que ces témoignages de 14-18 sont plus difficiles à recueillir que ceux, par exemple, du conflit 39-45. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est vrai?
Alors, il y a deux choses. D'un point de vue de l'écrit, on a beaucoup de récits de poilus. Les poilus ont beaucoup écrit leur déplacement, leur combat, l'attente, le moment où on passe au front, l'alcool, la souffrance, le tabac, les permes, etc. Donc il y a énormément d'écrits de poilus qui ont été en partie récupérés par les archives lors de collectes ou bien qui sont encore dans les familles. Mais il y a guerre de famille où on n'est pas une correspondance, une série de 50, 60 cartes postales où le soldat raconte sa vie ou bien son récit de la guerre ou postérieur à la guerre. En revanche, on sait aussi les gens qui ont connu, comme moi, dans leur enfance, les derniers poilus de 14-18, savaient qu'ils racontaient assez peu. Ils l'ont écrit, ils avaient une beaucoup plus grande retenue quand il fallait le raconter. Et il en va un peu de même pour 39-45 ou pour l'Indochine ou pour l'Algérie. Mais là, les gens ont moins écrit. Donc 14-18 est une guerre qui est assez bien documenté à travers les écrits de ceux qui l'ont vécu. Sans doute plus que 39-45 où les témoignages sont plus généraux ou plus distanciés ou plus tardifs.
Alors, on est obligé de vous poser la question. Le livre qui est écrit là sur le Finistère dans la Grande Guerre ouvre sur un sujet qui est la prostitution. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de matière à travailler ce sujet ?
Oui, alors si le livre ouvre sur la prostitution, qu'on soit bien d'accord, c'est parce que les articles ont été classés par ordre alphabétique. Et comme la jeune femme qui a écrit, une étudiante brestoise qui a écrit l'article s'appelle Apolline Arnal, eh bien elle arrive en tête, elle ouvre l'ouvrage et ensuite on va faire défiler les articles dans l'ordre alphabétique. Alors la prostitution, c'est une constante de la société du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Et donc cette prostitution connaît une adaptation à la guerre, puisque le contexte est différent. Les soldats reviennent en permission, donc l'époque des grands casernements remplis de soldats était oubliée durant la durée du conflit. Mais en revanche, les soldats qui reviennent vont chercher un peu de consolation auprès des prostituées, sachant qu'on est encore dans un monde où consommer avant le mariage ne se fait pas ou se fait peu. Alors, il faut pas être naïf en imaginant que tout le monde attendait d'être passé devant le maire ou le curé pour passer au lit, mais il faut pas non plus le négliger. Et donc, la prostitution est là pour permettre aux soldats célibataires, en tout cas, de trouver un peu de réconfort dans des conditions qui sont sordides. Un certain nombre de films ou de romans ont eu tendance à mythifier la prostitution des 19e et 20e siècles. En réalité, c'est proprement atroce.
Et dans le livre, on a un aperçu de ces conditions. Oui. Au travers d'archives.
D'archives. Alors, on possède des archives sur la prostitution parce que la police faisait très bien son travail, que les préfectures, et là on revient sur l'administration qui continue à fonctionner, fait très bien son travail aussi, et donc continue à enquêter, à se renseigner, à donner des autorisations ou non d'ouvrir des établissements. Là où c'est plus difficile à percevoir, mais Apolline a su, à travers des témoignages, à travers la presse, à travers des courriers montraient que c'est sur la marge. On a la prostitution établie avec des pauvres malheureuses qui sont fichées, encartées, etc. Bon. Et puis derrière, on a une prostitution plus sourde, plus discrète. Et elle évoque par exemple ce cas d'un soldat qu'on voit partir dans la campagne quimperoise avec une gamine qui a 14 ou 15 ans, ce qui choque profondément les témoins. Mais la misère existait déjà avant, mais elle ne fait que s'aggraver avec la guerre. Elle est renforcée par le conflit. Et puis les conditions de vie sont tellement décalées, tellement atroces que des tas de choses peuvent expliquer ce genre de situation. Donc c'est une situation absolument terrible et sordide.
Eh bien merci beaucoup Yves Coitivi pour nous avoir présenté cet ouvrage 1914-1918, Le Finistère dans la Grande Guerre, donc édité par la Société archéologique du Finistère. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
L'émission. Mission sur Radio Évasion.